Il est 18h15 à Tilabéri, c'est l'heure du forum du studio Kalungu. Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité à nos émissions diffusées en direct sur 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalungu, sur Internet à l'adresse www.studiokalungu.org et sur WhatsApp. Le forum d'aujourd'hui est axé sur le thème autonomisation des femmes pour une meilleure résilience des communautés en zone de conflit, notamment dans la zone des trois frontières. En effet, depuis le début de la crise au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, appelée le Tako Gourma, est caractérisée par un niveau élevé de violence envers les civils. La présence des groupes armés, la montée de la criminalité et des tensions intercommunautaires ont causé le déplacement d'environ 513 919 personnes, dont plus de 260 000 plutôt, personnes déplacées internes et environ 250 000 réfugiés, en majorité des femmes et des enfants, selon les chiffres d'OCHA. Les populations ont une vie difficile, vivant sous menaces constantes qui se traduisent par des attaques, tueries, assassinats ciblés, extorsion de biens de toute nature et violence sur les personnes perpétrées par les groupes armés non étatiques. Avec l'afflux de personnes vers d'autres localités, les besoins ont augmenté, notamment dans le secteur de l'eau, la sécurité, l'alimentation, la santé, la protection, les abris, l'éducation pour les communautés hôtes et les déplacés. Ce forum sera donc une opportunité pour nous d'échanger sur l'importance de l'autonomisation des femmes pour une meilleure résilience des communautés concernées. Avec nos invités, nous allons échanger sur les besoins des communautés dans la zone, le niveau de vie socio-économique des populations, les avantages de développer des activités génératrices de revenus au profit des femmes qui constituent le gros du lot de ces populations affectées avec de nouvelles charges qui leur reviennent. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Moumouni Hassan, il est le secrétaire général de la mairie de Touroudi. Nous avons aussi Mme Idrissa Laki Ousseini de l'association Femmes, Jeunesse, Environnement et Développement. Bonjour madame.
Bonjour.
Nous avons aussi Mme Hamadou Essato Jibo, femme Kagalo. Bonsoir. Il y a enfin Mme Isaac Sadatou qui est femme leader de la région de Tilabéri. Et je suis Moussa Hassan au microphone pour faciliter les débats.
Bonjour.
Donc, plusieurs localités du Tako Gourma, comme je le disais tantôt, sont affectées par l'insécurité ambiante qui a fortement fragilisé les populations locales. Dans la zone des trois frontières, les déplacés viennent par centaines chercher refuge après avoir été sommés de quitter leur village par des hordes armées qui ont aussi volé leur bétail, détruit leur grenier. Je commencerai par vous, monsieur le SG, parce que c'est vous qui êtes très souvent sollicité en tant qu'autorité locale. Quelles sont les conséquences socio-économiques de ces déplacements?
L'impact que ces mouvements des populations ont sur l'économie c'est palpable. Donc, c'est des communautés qui produisaient dans leur localité avec leurs moyens de production. Ils ont tout abandonné et ils se retrouvent maintenant dans une situation d'appui humanitaire. Donc, il y a un désœuvrement total, c'est-à-dire des communautés déplacées qui sont au niveau des villes et villages d'accueil. Et cela a une répercussion sur l'économie aussi locale que l'économie nationale d'ailleurs. Parce que la production agricole et la production agro-silvopastorale également a fortement subi des coûts liés à ce phénomène.
Donc, je reviens vers vous, Madame Idrissa Laki. Les femmes peuvent-elles être considérées comme plus prioritaires que les autres couches dans ce phénomène?
Je dirais oui, en ce sens que. Souvent, quand on vient pour les appuis et autres, c'est les chefs de ménage qui trouvent c'est au chef de ménage qu'on demande par rapport à un certain nombre d'appuis. Et c'est quand seulement le chef de ménage est une femme que vraiment elle est prioritaire. Et il y a des critères de vulnérabilité que les autorités cherchent. Et ces critères-là sont souvent la taille du ménage. Et quand le statut de la femme, si elle est veuve, si elle est divorcée, à tête d'une autre famille en charge, et tout ça là, c'est ça qu'ils voient. Mais dans les zones affectées, c'est toutes les femmes qui sont prises en charge.
Je continue avec madame Sandotou. Est-ce qu'il faut prioriser les femmes dans ce cas de situation?
Et les femmes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Et puis les femmes jouent un rôle très important en matière de santé, développement et l'éducation. À ce titre, leur autonomisation est indispensable.
Comment assurer d'être directe à cette personne? Selon vous,
ce que je vois pour assurer l'aide, on doit recenser les femmes vulnérables. Puisque, avec la crise, la presque, c'est quand on vient dans les villages, on tue les braves valides. Les braves valides ne sont pas là, ce sont les femmes seulement qui sont là. Donc, on devrait les recenser pour les aider, en les aidant, en les créant des AGR. Des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins.
Est-ce que ces femmes sont prises en compte dans la prise de décision, notamment humanitaire?
On cible, c'est-à-dire les ménages, on cible également les chefs des ménages. Mais nous avons constaté que généralement, c'est-à-dire au niveau des déplacés, les hommes ne restent pas. Quand il y a le mouvement, les hommes quittent, c'est-à-dire certains partent en exode, d'autres partent, c'est-à-dire dans les grandes villes, c'est-à-dire pour trouver d'autres activités à faire. Et ils inscrivent leurs femmes comme étant chefs de ménage parce que c'est elles qui sont, c'est-à-dire sur les sites. Donc je dirais ici que quand vous ferez le point, quand vous regardez, c'est-à-dire la situation des déplacés au niveau, c'est-à-dire de la région, vous verrez que le plus grand nombre, ce sont des femmes. Et le constat même est palpable. Si vous partez sur le site également, que vous verrez plus de femmes et des enfants que des hommes. Donc, sur ce point, je dirais que les femmes sont prises en compte. Et il y a également des appuis qui sont spécifiques aux femmes. Des appuis, par exemple, dans le cadre, c'est-à-dire d'hygiène, de kits d'hygiène, ou bien comment est-ce qu'ils appellent ça. Et voilà, il y a également, c'est-à-dire des appuis, des activités génératrices de revenus, et qui sont ciblés uniquement au niveau des femmes. Donc je dirais que les partenaires sont tellement regardants par rapport à la situation des femmes. Et pourquoi encore? Parce que nous savons que culturellement, les femmes, c'est-à-dire consacrent plus la plus grande part de leurs gains à la famille que les hommes. Ça, c'est un constat que nous tous, nous savons. Si nous avons, c'est-à-dire 10 000... Nous pouvons, c'est-à-dire, dépenser les 10 000 tant que, c'est-à-dire, le foyer n'en bénéficie, alors qu'une femme, elle ne peut pas avoir 10 000 sans que ses enfants ou bien le mari n'en profite, c'est-à-dire, de ces 10 000 francs. Donc cela est vraiment nécessaire, c'est-à-dire, à prendre en charge et à accompagner parce que les femmes constituent vraiment un levier de développement économique. Et en plus de leur nombre, c'est-à-dire, qui représente, c'est-à-dire, plus de 50% de la population nigériennes, et elles sont également celles qui se donnent, c'est-à-dire au travail avec plus de passion.
Vous qui travaillez en étroite collaboration avec ces femmes, est-ce que ces femmes sont prises en compte dans les prises de décision?
Les femmes sont prises en compte dans les prises de décision. Puisque quand les partenaires viennent dans les localités, on appelle chaque fois les femmes. Il y a l'intervention des femmes. Les femmes viennent, elles exposent leurs problèmes et les partenaires prennent en charge ces femmes.
Donc, dans les foyers de tension, en fonction de leur statut de femme, pour bien s'impliquer dans les prises de décision, dans l'activité à venir.
Bien, je dirais que ces femmes ne sont pas à l'aise, ces femmes.
à partir du moment, souvent c'est l'éducation. La femme est éduquée souvent pour être soumise, pour être aux côtés de l'homme, à la charge de l'homme. Maintenant, une situation de vulnérabilité s'impose. L'homme est soit tué, soit assassiné, ou bien, comment dirais-je, ou bien déguerpi. Et il laisse la femme. Elle n'est pas habituée souvent à prendre des décisions. Souvent, elle-même, elle ne sait pas la potentialité qu'elle a. Qu'elle a pour décider par rapport au bien, quoi faire, ce que je ne devrais pas faire. C'est là où nous intervenions. Nous les sensibilisons. Nous les formons pour qu'elles sachent que, comme en germain, on l'a dit, ici, Bouling Fou, le Dumba Banda.
Donc, Madame Sarut, vous l'avez si bien noté, il faut autonomiser la femme économiquement et parce que la femme est au centre de tout développement, au centre de toute socialisation. Comment, selon vous, peut-on amener ces femmes-là à être autonomes?
Bon, l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles sont considérées comme une priorité essentielle dans le plan.
La priorité d'autonomiser la femme et de l'éduquer.
Oui. C'est pris en compte par les autorités. C'est pris en compte par les partenaires. Et vous allez voir dans le plan d'action nationale deuxième génération du Niger, il y a beaucoup de paquets qui est mis. C'est avec ce paquet-là que les partenaires viennent. Peut-être que celui qui intervient à Wallam, il vient, il voit, et dans le plan d'action nationale deuxième génération, il voit ce qui est prévu pour la zone de Wallam, il prend. Celui qui veut va à Torodi, il vient, il prend. Avant, elles faisaient leur jardinage. Vu l'insécurité, elles ne peuvent pas sortir. Avant, elles faisaient la cueillette des produits, des fruits sauvages qu'elles vendaient sur le marché. Ça contribue à l'économie. Maintenant, elles ne peuvent pas sortir à cause de la psychose d'être attaquées, d'être violées, d'être, je ne sais pas, martyrisées. Elles ne peuvent pas sortir. Donc, les partenaires viennent sur les sites pour leur autonomisation en faisant le cash transfert. En les sensibilisant pour que, par exemple, la femme qui connaissait faire les nattes, qu'elle réinvestisse ce qu'elle a appris, ce qu'elle connaissait. Et bon, d'une manière générale, on peut dire que tout le monde, tous les partenaires veillent à ce que la femme soit autonome. Et il a eu à lui dire, quand la femme a de l'argent, c'est toute la famille qui le reçoit. Et non pas l'homme, hein? Nous le savons.
Merci. Ça vérifie avec des statistiques.
C'est une étude qu'il a démontrée.
Voilà. Il est revenu vers vous, monsieur le SG. Comment se fait la collaboration entre les différents services techniques de l'État, les partenaires et les structures des femmes?
Oui, la prise en compte, ça vient maintenant la question même des femmes. Il y a une stratégie nationale de la promotion économique, c'est-à-dire des femmes, qui est élaborée par notre gouvernement. Et cette politique est mise en œuvre, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs durables du développement, les ODD. Et quand vous regardez également dans toutes les planifications, Madame Idriss l'a évoqué, que ce soit le PDS, que ce soit au niveau du PDR, que ce soit au niveau des PDC, au niveau des communes, et la question des femmes entre dans la politique, c'est-à-dire du genre. Et le genre, c'est-à-dire c'est une thématique transversale parce que les femmes sont considérées comme des couches vulnérables, des couches qui sont un peu marginalisées. Donc, leur prise en compte est traitée dans la question dans la thématique du genre, qui est une thématique transversale qui est prise en compte dans tous les secteurs, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau, c'est-à-dire de l'économie. Et la femme est prise en compte. Maintenant, par rapport à, pour revenir à votre question, les services techniques, il y a un service technique spécialement dédié aux femmes qu'on appelle la direction départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Et c'est les deux couches qu'ils ont jumelées ensemble, c'est-à-dire pour prendre en compte, c'est-à-dire leur spécificité, leurs besoins spécifiques. Et je pense bien que tous les services techniques sont tellement regardants par rapport à la question de la femme, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, La question des femmes sont traitées avec vraiment avec beaucoup de diligence. Sur le terrain, quand vous regardez, c'est vrai que, comme elles l'ont évoqué, culturellement, les femmes et les jeunes sont censurées dans les débats et dans les prises de décision. Donc les femmes qui parlent, c'est-à-dire au cours d'une assemblée générale villageoise, sont perçues comme des femmes qui sont perçues comme des femmes qui ne sont pas soumises. Et les jeunes également sont perçus comme, c'est-à-dire des jeunes qui sont impolis, trucs comme ça. Mais les consciences évoluent avec des leaderships ou bien des leaders, c'est-à-dire qui se créent avec des organisations féminines qui se créent également avec des sensibilisations, avec l'éducation. Et il y a des mentalités qui commencent vraiment à changer. Les gens commencent vraiment à comprendre. Et surtout, c'est-à-dire, c'est à féliciter les organisations des femmes et les radios que vous êtes également et des télé. Vous aussi, vous contribuez, c'est-à-dire, à l'éveil des consciences de nos citoyens pour que cela avance. Et ça se remarque également sur le terrain, comme vous le dites.
C'est inutile aussi qu'il a montré, ça a été révélé par les jeunes de Tillabéri. À Tillabéri, comme à Dosso, dans l'ouest du Niger, les gens se gargarisent d'une situation sociale pour ne pas faire certains types d'activités. Moi, je suis femme d'un tel, je suis fils d'un tel, c'est pas à moi de faire ceci, cela. Est-ce que cela ne bloque pas parfois souvent les activités des femmes? Selon vous, moi, femme d'un tel qui va venir.
Moi, Maïga.
Moi, je suis Maïga.
Oui,
moi, je crois que c'était avant. Mais maintenant, là, les gens ont compris. Affaire de Maïga, affaire de Jérôme Kouala, maintenant, ça ne tient plus. Mais, oui, ça ne tient plus. Maintenant, si tu mieux vaut aller chercher de l'argent, mieux vaut aller travailler. Que de rester pour dire que moi je suis maigre et tu n'as rien, tu attends que quelqu'un vienne te donner. C'est pas bon. Mais maintenant les gens ont compris. Tout le monde, avec l'émancipation, tout le monde cherche. Les femmes, même les femmes. Maintenant, si tu vas en ville, là, tu vas voir une femme maigre avec. Sur le boulot là, par exemple, ici à Tillabéri, quand on va voir les femmes avec les tasses de salade, les tasses de melon, toi aussi c'était avant, ils ne le font pas. Mais maintenant, mieux vaut aller chercher pour soi que de rester à la maison dire que toi tu es un mec ou j'ai pourquoi tu ne vas pas aller chercher. Non, maintenant cette question-là, il n'y a plus de gens.
Donc, madame Issaka Sandatou, je viens à vous. Il y a une autre groupe, un autre type de cerveau. J'ai fait l'école, j'ai tel diplôme.
Bien, merci. On dit que les brebis galaises ne manquent pas, mais ça change, ça évolue. Les femmes sont dans les groupements féminins. Avec toutes les différentes couches, vous voyez. Et donc, moi, je suis, j'ai tel diplôme, je suis cadre ceci, je suis cela. Malgré cela, je travaille avec celui qui n'est même pas allé à celle ou celui qui n'est même pas allé à l'école. Dans les groupements, ils font les jardinages, ils s'associent, ils voient ce que ça rapporte, ils apportent leur aide. Je dis que maintenant, dans l'ère actuelle, là, les choses ont évolué. Surtout à Tillabéri ville, quand ils ont vu les déplacés internes de l'Azourou, là, quand elles étaient venues, et les femmes, il y a certaines qui se sont même maudites pour dire que si j'avais telle chose, si j'avais telle chose, j'allais vraiment venir à l'aide à ces femmes. Malheureusement, et c'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever son chiot, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça change. Ça viendra avec le temps. On va s'atteler pour continuer à sensibiliser. Et parce que quand on est autonome, on sait bien qu'on est respecté.
Effectivement.
Quand on est autonome, tu es un tout. Parce que souvent, quand tu n'as rien dans la famille, même si tu es l'aîné de la famille, on ne te dit même pas le mariage de ton propre enfant ou bien de ta propre soeur. Mais si tu es autonome, les gens courent derrière toi. Donc, on tend vers l'autonomisation. Les gens comprennent. Ces stéréotypes-là sont en train d'être un peu mis à l'écart pour ne pas dire, s'effacer complètement.
Elles sont 54 femmes. Donc, à leur disposition, elles le font de telle qu'elles sont en train d'exploiter. Vous avez écouté comme moi. Il y en a même qui sont partis, qui ont fait le pèlerinage avec. Et ça a créé toute une chaîne d'activités. ça donne un peu la latitude aux hommes d'aller eux aussi exploiter leur terrain. Ça crée d'autres activités pour les revendeurs, il y a les transporteurs. Donc, comment avez-vous ménagé cela, Bertoroudi?
Oui. Parce que les activités maraîchères se sont développées surtout après la crise de 1983, avec la sécheresse de 80. Donc, il y en a beaucoup de groupements comme ça, hein, qui ont je connais des groupements qui ont jusqu'à 12 hectares, des 12 hectares avec une centaine de femmes, et qui ont des revenus, des femmes qui ont des revenus annuels, c'est-à-dire de plus de 2 millions. 1 million, 1 500 000, 2 millions. Et ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire, c'est d'orienter les partenaires, c'est-à-dire dans notre planification, dans la production, surtout dans la mobilisation des eaux et la protection des sites. C'est dans ce cadre même, avec les déplacés, nous avons aménagé, c'est-à-dire un site de 8 hectares, à Touro, du même, pour mettre ça à la disposition des femmes. Donc, nous avons des allocations financières avec un partenaire, notamment le PASEC qui vient de finir, et ça nous a permis, c'est-à-dire, de faire la clôture grillagée et de faire des forages et de faire des systèmes californiens et de mettre ça à la disposition des femmes. Et c'était vraiment un engouement. Les femmes, certaines sont jusque-là qui veulent, mais le site est saturé. Donc, c'est des choses que nous pensons que c'est le seul secteur sur lequel, quand on investit, tout le monde peut se retrouver, particulièrement les femmes. Parce que l'agriculture irriguée est différente de l'agriculture pluviale. On n'a pas besoin de beaucoup de superficie. C'est-à-dire, 200 mètres carrés peuvent suffire, c'est-à-dire, à une femme pour produire et se nourrir pendant toute l'année. Il suffit, c'est-à-dire, d'avoir une bonne spéculation et d'avoir, c'est-à-dire, les techniques, c'est-à-dire, de maraîchage et l'encadrement nécessaire, c'est-à-dire, pour contrôler l'activité.
Et justement, est-ce que cet encadrement est là?
L'encadrement est assuré par les services techniques de l'agriculture. Et ils sont vraiment à pied d'œuvre, c'est-à-dire, pour accompagner ces femmes-là. Parce que c'est devenu maintenant culturel chez nous. Parce que quand vous partez déjà à Kobadi, vous verrez qu'ils ont évoqué ça tout à l'heure. Il y a des jeunes qui ne font que revendre, c'est-à-dire les produits maraîchers, les produits irrigués. Et il y a des femmes qui sont de l'autre côté qui produisent. Et effectivement, il y a aussi ceux-là qui font le transport avec des charrettes, c'est-à-dire des sites jusqu'au village, des trucs comme ça. Donc, c'est toute une chaîne et il y a des différents maillons qui profitent, c'est-à-dire Et nous avons même une unité de transformation de ces produits maraîchers. Et qui est fonctionnel, opérationnel, et c'est une unité qui est tenue par les femmes également.
Ok, donc pour revenir dans le même sens, vous avez écouté comment le témoignage. Qu'est-ce que cela vous explique en tant que femme, d'entendre des femmes faire de tel type d'activité? Qu'est-ce que cela vous explique?
Merci, vraiment, c'est très intéressant pour une femme de se réunir pour faire ses activités elle-même, pour subvenir aux besoins. Qu'est-ce que vous avez entendu? Elles ont dit qu'elles font le jardinage pour acheter des fournitures aux enfants,
nourrir
la famille. Donc c'est vraiment à féliciter.
Donc, madame Sadatou, vous avez écouté pour nous le témoignage. En tant que femme, qu'est-ce que cela vous explique?
L'objectif du plan d'urgence et de contribuer à la période et l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
Est-ce que avez-vous des cas similaires en dehors de cette zone que vous connaissez bien sur le terrain?
Oui, oui, oui. Il y a des cas similaires. Vous voyez, si avant, si ce n'est pas à cause de l'insécurité, si vous partez de l'Ouzourou, il y a des mares semi-permanentes à Dukou, Dukou Sarao, Dukou Djindé, et qui permettent aux femmes et aux jeunes même de travailler et donc les produits locaux. Ici à Tilakena, il y a beaucoup de groupements féminins qui ont des lopins de terre, qui cultivent les choux, les oignons, qui font les melons. En tout cas, elles travaillent. Et il y a aussi le moringa aussi qui est exploité. En plus de cela, Et vous voyez maintenant, les femmes qui sont reçues, qui sont déplacées, ça permet la cohésion. Parce que ça ne fait pas longtemps quand la directrice de la promotion de la femme avec quelques femmes, nous sommes rendus à Tilakena, on a trouvé des parcelles travaillées par des femmes autochtones et des femmes de déplacés internes. Elles se sont associées pour travailler, pour se faire confiance. Ça là, c'est vraiment salutaire. Ça crée la cohésion, ça crée la confiance, ça permet à l'économie de se développer et à la femme qui est déplacée, qui est venue, de se faire elle-même confiance par rapport à ses compétences. Et socialement, elles seront intégrées. Et elles sont d'ailleurs intégrées, si on peut dire. C'est vraiment très bien.
Donc, je peux dire que cela contribue à la stabilisation socio-économique du milieu.
Oui, justement, parce que cela assure la quiétude, c'est-à-dire familiale. Si la femme est autonomisée, c'est-à-dire ça assure la quiétude familiale, ça assure également, comme vous l'avez entendu, l'éducation, ça garantit l'éducation des enfants. Mais pour que cela, ce qui est intéressant d'abord, de savoir comment faire, c'est-à-dire pour autonomiser la femme. Et je pense bien un de secteurs qui peut impacter cela, c'est l'éducation.
Ouais.
Il faut vraiment que les femmes soient éduquées et il faut que les femmes soient formées dans des centres de formation professionnelle pour qu'elles soient vraiment compétitives, qu'elles soient également aptes, c'est-à-dire à produire des produits de qualité. Et il faut également que les femmes, il y a aussi le secteur de la santé, il faut que les femmes aient accès aux services et à l'information sur la santé reproductive. Parce que ça aussi, c'est un aspect sur lequel il faut travailler pour permettre aux femmes vraiment d'être, c'est-à-dire ça, handicap. Et l'autre côté aussi, c'est vraiment l'accompagnement. Et il faut déconstruire aussi les pesanteurs sociales que vous avez évoquées. Il faut travailler, faire des sensibilisations pour que les mentalités évoluent, pour qu'on laisse les femmes aller travailler. Parce qu'on a l'impression que certains hommes pensent que si la femme elle est autonome, elle devient inopposante, elle devient une insécurité, c'est-à-dire dans le foyer. Bon, je ne pense pas que cela, je n'épouse pas, c'est-à-dire cette idée. Et je pense bien que c'est dans un couple, ça doit être vraiment une collaboration. Ce n'est pas une relation de dominant et de dominé. Et ça doit vraiment évoluer. On doit savoir que le mariage, du point de vue religieux même, c'est un contrat. Et c'est un contrat qui est régi par des clauses. Et parmi ces clauses-là, il n'y a pas, c'est-à-dire la domination. Après, on a besoin que la femme soit soumise à son mari, c'est-à-dire qu'elle accepte que c'est le mari qui est le chef de ménage, mais que le mari également accepte que la femme s'épanouit.
Madame Hamadou, pensez-vous qu'il y a d'autres vecteurs d'activité, d'autres secteurs qu'on puisse raviver, qu'on puisse, sur lesquels on peut agir pour l'autorisation de la femme? Au niveau du jardinage, s'il y a d'autres secteurs de la vie économique sur lesquels on peut se baser?
Au niveau du
jardinage et de l'élevage,
oui.
S'il y a d'autres.
Il y en a.
Par exemple,
on peut amener les femmes dans le foyer, les centres pour qu'elles apprennent à coudre les habits, les foyers féminins. Mm-hmm. Il y a aussi, on peut les former pour qu'ils puissent transformer les produits agricoles aussi.
Effectivement, la transformation. Je reviens vers vous, madame Laki. Est-ce que tous ces secteurs-là sont porteurs dans ces zones-là ou bien il faut penser à autre chose?
Bon, je dirais dans ces zones-là, il y a le secteur de l'artisanat aussi qui est un secteur vraiment qui peut porter les transformations de nos produits locaux. Souvent, il faut travailler avec les moyens de bord. Là où je suis, j'ai des jujubiers. Je sais comment m'en sortir avec les fruits du jujube, faire le jus du jujube, faire je ne sais pas quoi. Donc, c'est les transformations des produits locaux. Et il y a le garbage, si on peut dire, et venir faire la transformation, le savon, tout ça là. En tout cas, les deux secteurs là, la transformation de nos produits locaux, et l'artisanat, en dehors de l'agriculture, sont aussi porteurs.
Toujours dans la même lancée, il y a des appuis ciblés et organisés qu'on fait dans le cadre de la résolution de cette situation d'insécurité. Par exemple, les femmes militaires décédées, on les organise en groupement, on les appuie, elles fructifient cet appui. Est-ce que du côté des victimes civiles aussi, ne pensez-vous pas qu'on puisse faire la même chose? Oui, ça se fait. Quel est le terrain?
La promotion de la femme, il a eu à le dire, et la protection de l'enfant. Les gens sont en train de penser. Les gens sont en train de penser et l'État est en train d'orienter et les partenaires vers aussi cette optique. Parce que ce n'est pas seulement les femmes, les militaires qui ont besoin d'être organisées. Il y a des autochtones aussi qui sont là sur place, des civils qui sont là sur place. Aussi, on prend une femme dont le mari a été assassiné, dont son père, ses frères, et elle est restée seule avec des enfants. Vous ne pensez pas que c'est aussi utile pour ces femmes-là d'être organisées, d'être appuyées et orientées, si on peut dire même accompagnées et coachées, pour qu'elles puissent vraiment subvenir aux besoins de la famille et de façon durable. Parce que c'est la durabilité qui compte dans toutes ces choses-là. Il faut les orienter vers cette durabilité.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos?
Oui, justement, parce qu'il y en a beaucoup de métiers, comme nous le disons, parce que chez nous, malheureusement, que ce soit au niveau des femmes ou bien des hommes même, mais il y a beaucoup de secteurs qui, ou bien des métiers qui sont un peu bien, si on peut se le permettre. Quand vous prenez, c'est-à-dire les salons de coiffure, quand vous prenez, c'est-à-dire les salons cosmétiques, c'est les côtières qui viennent, c'est-à-dire faire ça. Alors que, c'est-à-dire nos sœurs, nos femmes et nos filles également peuvent le faire. Donc moi, je pense bien que c'est des secteurs sur lesquels les femmes doivent se positionner et se spécialiser pour donner, c'est-à-dire le meilleur des services. Il y a également, quand vous prenez, c'est-à-dire la Madame Idrissa l'évoquait, et avant cette crise-là, sur la chaîne des produits forestiers non ligneux, que ce soit la cueillette, le transport et la vente même de certains produits comme par exemple les feuilles de baobab, que ce soit le fakou et autres, c'est les femmes qui faisaient ça. C'est une chaîne sur laquelle c'est uniquement les femmes qui se sont positionnées. Bon, le grand nombre quand même, ce sont des femmes. Et quand vous regardez également, pour tout ce qui est artisanat, la majeure partie, c'est-à-dire de nos artisans, dans la transformation des produits, dans la transformation de certaines choses, c'est également des femmes. Et je pense bien, on peut vraiment appuyer, c'est-à-dire sur ce secteur-là, sur ce métier-là, pour vraiment promouvoir le développement économique des femmes.
Quel est votre souhait dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes pour qu'elles puissent apporter leur contribution dans la stabilisation de la société et la cohésion sociale?
Sont aux autorités d'accompagner les femmes.
À travers des formations.
À travers des formations de sensibilisation. Quand je dis accompagnement, c'est-à-dire il y a tout. Il y a le financement, il y a la sensibilisation, la formation.
D'accord. Et vous, Madame Assadatou, Madame Isaac Assadatou, en tant que femme leader, quel est votre souhait pour l'amélioration des conditions de vie de ces femmes afin qu'elles puissent être réellement autonomes?
Notre souhait, c'est d'impliquer la femme dans les prises de décision.
Madame Idrissa Lakis, quel est votre souhait pour amener la femme à être utile, sinon primordiale, au sein de la société?
Il faut qu'elle ait l'accès à la terre, ça. On a besoin, les femmes en ont besoin. Et il faut aussi que les partenaires soient regardants. Souvent, pour les appuyer, on dit amener telle chose, amener une carte, amener ceci, amener cela. Qu'on voit au niveau de l'état civil également. Parce que quelqu'un qui a perdu tout, elle ne peut pas avoir, comment dirais-je, certains documents officiels. Il faut que les partenaires soient souples dans les appuis qu'elles veulent apporter, ou bien qu'on demande à la femme, nous on va t'amener ceci, on va vous construire des kiosques, on va vous former, on va vous appuyer, mais la matière première, il faut la chercher. Elle va la chercher où? C'est une manière de dire à la femme, va encore t'endetter. Si on veut aider, qu'on l'aide à 100%. Qu'on l'aide à 100%. Mais nous ne voulons pas du tout des cadeaux, comme on peut dire, prendre du poisson et donner à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher son poisson. C'est ça que nous voulons.
Merci. Je termine avec vous. Est-ce que quel est votre souhait le plus avant et votre appel?
Oui, l'appel c'est d'abord à l'endroit de la communauté, de notre société d'abord. Oui. Ou bien, c'est-à-dire c'est cette culture-là de marginalisation des femmes. Et cela, tous les acteurs doivent contribuer, en premier lieu d'abord les femmes leaders et leurs organisations féminines. Et vous également, les différents médias et aussi les autorités, surtout locales. Parce que je pense bien qu'on peut réussir, c'est-à-dire le changement de la base. Mais il faut qu'on sache qu'un changement est difficile et c'est lent. Il y a des changements qui s'opèrent, mais un changement, ça ne peut pas venir brusquement d'un coup. Mais il y a des changements quand même qui s'opèrent. Donc moi, je suis optimiste qu'on pourra, c'est-à-dire, atteindre l'objectif auquel on vise. Maintenant, par rapport, c'est-à-dire, à la part de la femme dans la prise de décision, moi, je pense bien, à l'endroit des femmes, elles doivent se battre. Elles doivent se battre pour mériter. Elles doivent se battre pour se positionner. Ne pas atteindre, c'est-à-dire, le quota, ce n'est pas intéressant.
En effet, la question de l'autonomisation de la femme et leur capacité à s'engager dans les initiatives entrepreneuriales est particulièrement aiguë. L'autonomisation de la femme, mais aussi celle de la jeune fille, reste une préoccupation majeure, notamment dans nos pays. Mais demeure néanmoins un des meilleurs moyens de stabilisation des communautés et de promotion de la cohésion sociale pour une paix durable. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalungu. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Idrissa Laki Ousseini de l'association Femmes, Jeunes, Environnement et Développement, de Monsieur Moumouni Hassan, secrétaire général de la commune de Torodi, de Madame Hamadou Essatou Jibo de l'association Femmes Kagalo et de Madame Isaka Sadatou, femme leader de la région de Tillabéri. Au microphone, je suis Moussa Hassan. Merci et au revoir. Thank you.